informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Marina Traoré.
À Bobo-Dioulasso, des commerçants en mouvement d'humeur ont fermé ce matin le grand marché. Ils dénoncent une mauvaise gestion. 15 octobre 1987, 15 octobre 2021, cela fait 34 ans que le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons étaient assassinés par un commando au conseil de l'entente à Ouagadougou. Haruna Traoré, conseiller à la présidence au moment des faits, a été le seul survivant. Il nous retrace le film des événements dans ce journal. Dans l'éditorial de ce vendredi, il sera justement question du procès sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, un procès qui a lieu 34 ans après les faits. À la une également, la diplomate burkinabé Minata Samaté a été réélue ce vendredi commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine. Et puis nous parlerons sécurité avec notre invité du jour. Il s'agit d'Ali Bokoum, le président du Conseil régional de la jeunesse du Sahel. Il appelle à une synergie d'action pour venir à bout des attaques terroristes. Bonjour à toutes et à tous. 15 octobre 1987, 15 octobre 2021, voilà 34 ans que le capitaine Thomas Sankara, alors président du Conseil national de la Révolution et chef de l'État burkinabé, passait de vie à trépas, fauché par des balles assassines au siège du Conseil de l'Entente. Avec lui, 12 de ses compagnons. Haruna Traoré, conseiller à la présidence au moment des faits, a été le seul survivant. Il venait de rentrer d'une mission du Bénin. Il nous retrace ici le film des événements.
Vous me demandez de réjouir le 15 octobre. Je ne peux pas vous réjouir le 15 octobre, mais seulement, il y a des faits marquants. J'ai été donc en ces lieux-là avec le regretté Paulin Bamouni. C'est dans son véhicule que je suis parti.
Notre confrère.
Et puis lui, il avait sa Kalachnikov dans le véhicule. Nous, on allait, on a garé, on est rentré comme d'habitude. On nous a indiqué la salle de réunion. Nous sommes arrivés donc avant le président. On s'est installé. Le président est effectivement arrivé. Et puis bon, comme je disais, moi, j'avais la veille fait un voyage au Bénin. Donc, j'ai eu droit à la parole. À peine ai-je commencé à faire le compte-rendu de ma mission, qu'on entend des crépitements au dehors. Suivi donc d'un ordre assez tonitruant, sortez, sortez, sortez. Sur ce, le président à l'intérieur se lève, nous dit, bon, c'est de lui qu'on a besoin. Il tire son survêtement vers le bas et il sort comme dans les films western, les mains en l'air. Il n'était pas armé. Il est sorti les mains en l'air et puis il a été abattu à bout portant au sorti de la salle de la rencontre. Les autres ont suivi à queue leu-leu et moi j'étais pratiquement le dernier à sortir de la salle. Bon, je n'ai pas eu d'impact de balle et puis j'ai été donc naturellement me confondre à ceux qui avaient été déjà atteints, ceux qui, parmi les morts là, ceux qui nous faisaient.
Ils vous ont vu, mais ne vous ont pas tiré dessus.
J'ai pas reçu d'impact de balle en tout.
Pour saluer la mémoire de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, plusieurs activités sont prévues aujourd'hui. À partir de 13h, les avocats de Thomas Sankara et sa veuve Mariam Sankara animeront une conférence de presse à l'université Thomas Sankara, après quoi une cérémonie de dépôt de gerbes aura lieu au mémorial à Thomas Sankara. Ce coup d'État a porté au pouvoir Blaise Compaoré, numéro 2 du CNR. Ce dernier ne s'est pas présenté au procès qui s'est ouvert lundi à Ouagadougou avant d'être renvoyé au 25 octobre. Pour Jean-Hubert Bazier, patron de presse sous la Révolution, l'ex-président a diabolisé Thomas Sankara juste après sa prise de pouvoir.
C'est quelqu'un qui n'a pas eu le respect de l'amitié, le respect de la camaraderie. Voilà quelqu'un qui, au lendemain du 15 octobre, s'est mis à insulter comme un pot pourri son compagnon. Il a insulté dans un discours en face de l'ancienne présidence. Ce discours était tellement obscène que les responsables du ministère de l'Information à l'époque, qui étaient au cabinet, ont jugé sage de ne pas le rediffuser. J'étais au cabinet à l'époque. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui a secondé Thomas Sankara pendant longtemps, à avant même qu'ils ne soient présidents. Nous les admirions parce que eux quatre, ils étaient un peu la jeunesse, ils étaient un peu l'espoir, ils étaient l'esprit de conquête. Passez-moi le mot, il a foutu toute cette aspiration par terre.
Notre éditorialiste nous parle aujourd'hui du procès sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, un procès sur lequel le Burkina et l'Afrique comptent pour voir la vérité. Voici notre éditorial de la semaine, il est signé Wézin Louis Oulon.
Juger les assassins de Thomas Sankara, ce n'est pas une sinécure. En d'autres temps, cela reviendrait à déboulonner un vieil écrou atteint de rouille et foiré par les intempéries. À petits pas, mais sûrement, ils sont arrivés au bout du tunnel. Voir des accusés dans l'affaire Sankara, dans une salle d'audience, en face d'un jury dont certains membres n'ont pas connu physiquement le chef de la révolution burkinabé, semble relever de la fiction. Ils étaient peut-être à l'école primaire, ces juges-là, au temps fort du régime Compaoré, comme nous le disait un de nos enseignants à l'université. 34 ans d'attente, d'espérance, mais aussi de désespoir. Quand il ne restait que 12 jours avant le délai de prescription, c'est en effet le 3 octobre 1997 que les avocats de la famille Sankara, dans un sprint époustouflant, ont pu acter la plainte, ouvrant la voie à une bataille judiciaire, à épisodes complexes, où le qui a tué Sankara n'était pas la question fondamentale. Entre Paris, Ouagadougou, Monrovia et Freetown, entre les labyrinthes des casernes burkinabées, les fils et câblages des compagnies de télécommunications, le juge d'investigation François Yamehogo a abattu un titanesque travail. Plus de 1000 auditions et interrogatoires, 150 témoins entendus au Burkina Faso, des expertises judiciaires et de nombreux actes de coopération au tribunal pénal international, au Libéria pour ce qui concerne Charles Taylor, une commission rogatoire en France pour auditionner des témoins résidents sur le territoire français, une commission, il faut le dire, partiellement exécutée pour l'instant, ce qui veut dire que le travail du juge n'est pas encore terminé du côté de l'Hexagone. Il a une demande de déclassification des pièces toujours sans suite, l'obligeant à ordonner la disjonction de la procédure pour des éléments internationaux du dossier, notamment l'hypothèse de la responsabilité et de l'implication de personnes et puissances étrangères dans l'assassinat de l'enfant de Tema Bokin. Autrement dit, le procès actuel est le premier acte au niveau domestique dans l'attente de l'assemblage de pièces nécessaires pour ouvrir le volet international. C'est une évidence, on connaît la liste du commando du 15 octobre 1987, ceux qui ont donné le coup fatal, pas de doute aussi sur le bénéficiaire de ce coup. De toute façon, les nombreuses audios et vidéos dans lesquelles il justifie son forfait ont tellement circulé que l'argument du paludisme avancé par le capitaine Compaoré à un moment donné ne saurait évidemment le sortir d'affaire. 25 personnes mises en examen, 14 jugées actuellement, 2 absentes du pays, Blaise et Hyacinthe. Le débat a buté à l'ouverture du procès sur les délais de connaissance des dossiers par les avocats commis d'office et sur est-ce qu'il faut enregistrer les audiences ou pas. Loin de toute rhétorique judiciaire, il faut simplement s'entourer de toutes les précautions pour éviter que des décisions de justice soient attaquées pour non-respect des règles élémentaires du droit, comme ça a été le cas avec les tribunaux populaires de la Révolution TPR, où l'État a dû indemniser à coups de centaines de millions des gens condamnés en première instance et pas forcément acquittables.
La suite du journal et nous parlons de cette nomination. Le président du Faso cède le portefeuille de ministre de la Défense au général de brigade Aimé Barthélémy Saint-Poré. Un peu plus de 3 mois après sa nomination au poste de ministre délégué à la Défense, le général de brigade Aimé Barthélémy Saint-Poré a été nommé ministre de la Défense nationale et des anciens combattants selon un décret du 14 octobre 2021. Le président du Faso Roch Kabore cède ainsi le portefeuille portefeuille de ministre de la Défense à celui qui était jusque-là son ministre délégué, Aimé Barthélémy Saint-Poré, premier militaire ministre sous la présidence de Roch Kaboré, devra apporter des réponses pour faire face à la menace terroriste toujours présente. À l'est du Burkina, par exemple, la caisse populaire de Diapaga, dernier établissement financier de la ville, qui était encore fonctionnel, a fini par fermer. Après EcoBank et la BOA l'année dernière, c'est au tour de la caisse populaire de mettre la clé sous le paillasson à cause de la menace terroriste. Dans une note datant du 8 octobre, le directeur de la caisse populaire de Diapaga explique d'entrée que son institution est confrontée à d'énormes difficultés dans l'offre de services aux membres compte tenu de la situation sécuritaire grandissante. Même situation dans le Sahel, les intimidations et les attaques sont quasi quotidiennes, nous explique Ali Bokoum, le président du Conseil régional de la jeunesse du Sahel. Il s'exprime au micro de Brigitte Yoda.
Aujourd'hui, on parle d'attaques seulement s'il y a un nombre élevé de pertes en vies humaines. Mais chez nous, les intimidations et les attaques, nous les vivons tous les jours dans notre région. Mais il faut avoir le courage de les dire de nos jours. Dans notre pays, la mort est devenue quelque chose qui est banal. Les tueries, les attaques, les morts que nous subissons pendant les attaques, les explosions liées aux engins explosifs improvisés, c'est des choses aujourd'hui qui sont devenues banales dans notre pays. Et c'est triste, mais c'est la réalité.
Ali Bokoum, le président du Conseil régional de la jeunesse du Sahel, est notre invité du jour. Interview à suivre en intégralité en fin de journal. Rendons-nous à Bobo Dioulasso. Des commerçants en mouvement d'humeur ont fermé ce matin le grand marché, a constaté un journaliste d'Omega. Ces commerçants qui étaient en sit-in plus tôt reprochent aux autorités communales une double collecte des taxes par la structure de gestion des marchés ainsi que la structure de gestion des équipements et infrastructures marchands. Les commerçants dénoncent par ailleurs l'insécurité au sein du marché et le manque d'éclairage. Forum national sur les filles en Afrique occidentale, débuté le 11 octobre dernier. L'activité s'est refermée le 13 octobre à Ouaga, placée sous le thème « Pour une Afrique favorable aux filles ». Le dit forum s'est articulé autour des questions de l'éducation de la jeune fille, du mariage d'enfants, la santé reproductive des adolescents et la violence faite aux filles ménagères. Compte rendu d'Irène Nikémon avec la voix d'Abdoul Fattah Tiemtouré.
Les filles, quel que soit leur âge, continuent d'être victimes au quotidien de discriminations fondées sur le sexe et rencontrent de nombreuses difficultés qui empêchent leur plein épanouissement. Il s'agit notamment du mariage d'enfants, des violences basées sur le genre ou encore de l'excision. Conséquence, un bon nombre de jeunes filles ne vont pas au bout de leur cursus scolaire. Le Forum national sur les jeunes filles en Afrique occidentale, organisé par African Child Policy Forum, en partenariat avec le ministère de la Femme et Children Believe, vise à interpeller sur les problèmes que rencontrent les filles en Afrique de l'Ouest. Ursule Kabore-Bouda, chargée de mission au ministère de la Femme.
Le problème, c'est le maintien à l'école. Elles accèdent maintenant de plus en plus à l'école, mais pour qu'elles restent à l'école, c'est des difficultés. Et ce taux de maintien à l'école étant faible, pourquoi ? À cause de ces problèmes de violence, à cause de ces problèmes d'inadaptation des infrastructures en milieu scolaire et des problèmes d'inégalité, en tout cas, qui les défavorisent au niveau scolaire par rapport aux garçons.
Pour mener à bien la lutte pour la reconnaissance des droits de la jeune fille, représentants d'organismes des Nations Unies, acteurs de la société civile, appellent à une synergie d'action et interpellent le gouvernement à une utilisation équitable du budget de l'État. Mavalo Christelle Kalhoulé, directrice de Children Believe.
C'est surtout un appel à utiliser judicieusement le budget de l'État. Nous savons que nous sommes dans un contexte particulier où une bonne partie du budget est utilisée pour la sécurité. C'est essentiel. Mais maintenant, comment les ressources qui sont disponibles pour les différents secteurs sont utilisées? C'est un appel à une utilisation judicieuse.
Le forum a été un cadre d'échange et de sensibilisation sur la question du bien-être de la jeune fille, une opportunité pour discuter des réalités que vivent les filles, d'évaluer avec elles les progrès réalisés et d'identifier les défis qui restent à surmonter. Les États membres de la CEDEAO ont entrepris de renforcer leur cadre juridique et politique afin de protéger les filles contre l'abus et l'exploitation.
Sans transition, on passe à l'actualité internationale. La diplomate Minata Samaté a été réélue ce vendredi commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine. La candidate burkinabé a été plébiscitée avec 45 voix sur les 46 votants lors du vote au cours du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tient dans la capitale éthiopienne. Félicitations au président du Faso, Rochmark Christian Kabore, pour ce grand succès diplomatique. Félicitations à l'ambassadrice Minata Samaté. Bon vent à elle pour ce deuxième mandat. A réagi sur ses réseaux sociaux le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry. Précédemment, Minata Samaté était commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine.
La revue de presse.
Les quotidiens du jour opinent sur divers sujets, entre autres la tension entre militaires et civils à Pau, la nomination du nouveau ministre de la Défense, le projet de loi adopté en Conseil des ministres pour recadrer la promotion immobilière au Burkina Faso. Mais avant tout, entamons la revue de presse avec le FESPACO qui s'ouvre demain. Asma Odao.
FESPACO 2021. L'essentiel n'est pas de tenir l'événement, il faut aller au-delà, selon le confrère Le Pays qui souligne que l'événement doit être une nouvelle interpellation. Des réalisateurs burkinabés a relevé le défi de remporter de prestigieux étalons d'or de Yenega comme en 1991 et en 1997 parce que ça fait longtemps, note le confrère. Garde à vous! Nous ne sommes pas dans un camp militaire, c'est juste un titre de la chronique du quotidien d'État citoyen. Le confrère smash des éléments comme écrit ici. On a beau voulu se taire sur cet énième dérapage d'éléments égarés de la grande muette, le comble accule le bon sens. Notre coup de plume est celui de l'amertume, poursuit le quotidien public, quand je pense à tous ces jeunes soldats qui tombent à jamais sans jamais renoncer à avancer. Et quand je pense que pendant ce temps, il y en a qui osent franchir le Rubicon pour marauder des bonbons de jupons sur fond de baston, je contiens difficilement mes larmes et mon dépit. Le confrère, bondé d'indignation, poursuit et dire qu'avec de tels agissements, on peut aller au front et revenir indemne par-delà les tabous et les totems. Toujours dans l'armée, aujourd'hui au Faso titre, le général Aimé Barthélémy Saint-Pauré nommé ministre de la Défense, la grande inflexion de Roc. Pour le jeune confrère, cette nomination intervient alors que de nombreux pans du territoire burkinabé sont sous coupe réglée des groupes terroristes et la tâche sera ardue pour le nouveau ministre de la Défense. Terminons avec le confrère Le Quotidien qui titre « Prolifération des promoteurs immobiliers et accaparement des terres, l'État veut enfin prendre ses responsabilités. » Selon le confrère, le projet de loi en instance d'être soumis à la représentation nationale traduit sans doute sa volonté de prendre ses responsabilités au risque d'être vu comme un complice passif de l'accaparement des terres, écrit le confrère qui conclut « En attendant, on peut se réjouir du fait que le gouvernement prenne conscience de la situation. « Better late than never », disent les Anglais. « Mieux vaut tard que jamais. »
L'invité du jour. L'invité du jour.
Notre invité du jour est Ali Bokoum, le président du Conseil régional de la jeunesse du Sahel. Le Sahel, une des régions du Burkina en proie aux attaques terroristes. Au micro de Brigitte Yoda, Ali Bokoum appelle à une synergie d'action entre les OSC, les leaders des régions concernées par le terrorisme, les partenaires du gouvernement burkinabé, le gouvernement lui-même et les forces de défense et de sécurité pour venir à bout du fléau.
Ali Bokoum, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes actuellement à Ouagadougou pour prendre part au Forum des jeunes du G5 Sahel du 14 au 15 octobre. Sur quoi ont porté vos travaux lors de la première journée?
Sur cette première journée, nous avons d'abord commencé par des plénières. Donc nous avons en tout cas eu l'immense honneur d'être servis de plusieurs discussions, de plusieurs communications par d'éminentes personnalités de notre pays.
Un forum placé sous le thème « La paix et la sécurité au Sahel ». Qu'est-ce qui a été dit?
Pour l'instant, nous sommes en train de faire les états des lieux. D'abord, revenir sur le contexte même sécuritaire dans les pays qui sont concernés, notamment pour ce qui nous concerne donc le Burkina Faso et les régions de notre pays qui sont impactées par cette crise sécuritaire, qui sont plus particulièrement les régions du Sahel, du Nord, de l'Est, de la boucle du Moon et du Centre-Nord.
Le forum des jeunes du G5 Sahel intervient quelques jours après celui des jeunes organisé à Kourougou du 7 au 9 octobre dernier et qui a réuni près d'un millier de jeunes des 13 régions du Burkina Faso. Alors lors du face-à-face avec le chef de l'État, Roch Kabore, vous l'avez interpellé sur la situation sanitaire, sécuritaire et alimentaire. Parlons d'abord de ce dernier volet alimentaire où vous avez dit au président Roch Kabore qu'à Mansili, les populations mangent les herbes. Est-ce que c'est une image ou la réalité?
De toutes nos préoccupations que nous avons eues à soumettre au président du Faso, c'est bien celle-là qui a le plus interpellé d'une manière ou d'une autre les consciences de tous les Burkinabés. Et c'était donc ce que nous voulions que la majorité des Burkinabés sachent. Ce n'est pas une image qui a été inventée, c'est bien la réalité à Mansila. Mais nous n'avons parlé que de Mansila pour planter le décor. Mais plusieurs communes, plusieurs villages sont dans cette situation. Et nous avons parlé d'herbes parce que nous sommes dans la saison pluvieuse. C'est-à-dire la pluviométrie faisant, il y a des herbes qui poussent et qui permettent à l'être humain de s'alimenter. Mais on s'alimente des herbes qui sont d'une manière ou d'une autre comestibles, mais il y a d'autres même qui sont dangereuses pour la santé de nos populations. Et malheureusement, les populations ne savent pas. Quand on a faim, on va manger ce qui est comestible, mais nous allons même manger ce qui peut porter atteinte à notre santé, à notre intégrité physique.
Et au plan sécuritaire, vous sembliez dire que la situation est plus dramatique qu'on l'imagine. Et en tant que jeune, qu'est-ce que vous subissez justement dans votre région, le Sahel?
Malheureusement, aujourd'hui, on parle d'attaque seulement si il y a un nombre élevé de pertes en vies humaines. Mais chez nous, les intimidations et les attaques, nous les vivons tous les jours dans notre région. Mais il faut avoir le courage de le dire. De nos jours, dans notre pays, la mort est devenue quelque chose qui est banal. Les tueries, les attaques, les morts que nous subissons pendant les attaques, les explosions liées aux engins explosifs improvisés, c'est des choses aujourd'hui qui sont devenues banales dans notre pays. Et c'est triste, mais c'est la réalité.
Et sur ce point, quelle a été la réaction du président du Faso?
Je veux dire que le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore, qui est le père de la nation, qui est le premier Burkinabé, qui est notre capitaine, nous a répondu en nous disant que, bien évidemment, il a des amis qui quittent tous les jours Dori pour venir à Ouaga. Nous également, nous avons des amis qui quittent tous les jours Ouaga pour aller ailleurs. En tant que président du Faso, au vu de cette réponse, nous ne pouvons pas trop commenter. Voilà, mais c'est la réponse quand même qu'il nous a donnée lorsque nous avons dit que le Sahel était fermé au reste d'abord du pays, mais le Sahel était également renfermé sur lui-même. En disant qu'on ne pouvait plus quitter Douri pour aller ailleurs, bon, on n'a pas été compris par le président du Faso lui-même, par le gouvernement et par beaucoup d'autres personnes même. Parce qu'en disant que tu ne peux pas quitter Douri pour aller ailleurs, tu ne peux pas quitter Douri pour aller à Gorongorom. Tu ne peux plus quitter Douri pour aller à Djibo en prenant la route d'Arbinda. Tu ne peux plus quitter Douri pour aller vers Seba. Tu ne peux plus quitter Seba pour aller dans les autres communes. Tu ne peux plus quitter Gorom pour aller à Tinakof. Tu ne peux plus quitter Djibo pour aller ailleurs. Et c'est bien de le rapporter. Aujourd'hui, le risque chez nous, c'est de prendre Douri pour Ouaga. Aujourd'hui, prendre Douri pour Arbinda, Douri pour aller à Gorom, ce n'est pas un risque chez nous, mais c'est suicidaire.
Par rapport à la réponse du président du Faso, le chef de l'État a promis des actions fortes, mais il appelle aussi à la mobilisation de tout le monde pour vaincre le fléau du terrorisme. On dit généralement « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Qu'est-ce que vous faites pour produire vous-même votre propre sécurité?
Beaucoup de personnes croient qu'au Sahel, il y a des jeunes qui sont enrôlés dans le terrorisme. Et si ce terrorisme-là, aujourd'hui, jusque-là nous sommes à ce niveau, c'est parce que la majorité n'a pas adhéré. Et c'est parce que tous les jours que Dieu fait, nous sensibilisons nos frères, nous sensibilisons qui que ce soit, nous sensibilisons toutes les personnes qui résident dans cette partie du Burkina à demeurer résilients, à être aux côtés de notre État, afin que le terrorisme ne s'installe pas dans notre région. Et pas seulement dans notre région, mais pratiquement dans tout le Burkina. Nos actions portent des fruits auprès de la population. Parce que moi, je l'ai dit, s'il y avait des actions conjointes, s'il y avait une coordination des actions sur le terrain, nous ne serions pas là en ce moment.
Coordination avec qui? Entre qui et qui?
Merci. La coordination des actions dont je parle ici, c'est d'abord la coordination des actions entre les OSC et les leaders de la région du Sahel ou des régions qui sont concernées. Je dirais la coordination des actions entre les OSC et les leaders des régions concernées par le terrorisme entre les partenaires du gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement du Burkina Faso lui-même. Il faut qu'au même moment que les OSC sensibilisent les populations, il faut qu'au même moment le gouvernement assiste les populations qui sont dans ces régions. Sans cette coordination, nous ne pourrons pas aboutir.
Ali Bokoum, merci.
C'est moi, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez.
C'était l'invité de la rédaction.
C'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tiendripeogo, Aurélie Web, Yaya Diomandé. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.